Bonjour à tous, mes frères et sœurs, je suis ravi de vous voir tous ici en cet après-midi de Pentecôte. Levez la main, qui aime se faire insulter. Je me souviens que certains de mes souvenirs d'enfance les plus marquants, c'était d'être dans la cour de récréation ou en classe et de me faire insulter. Je dois avouer que je n'étais pas vraiment fan de cela. Je n'aimais pas qu'on me donne des surnoms. Je laisse cela à votre imagination, mais peut-être que je vais m'amuser un peu. Quand on s'appelle, il y avait une émission à la télévision avec un cheval qui parlait, et le titre commençait par Monsieur et finissait par D. Bref, oui, se faire donner des surnoms est quelque chose dont je me souviens certainement dans certains cas, voire dans de nombreux cas, que j'aurais voulu oublier. Eh bien, mes frères, aujourd'hui, je vais moi-même me livrer à des insultes. Donc, je suppose que quoi qu'il en coûte pour vous garder tous alertes et éveillés après le déjeuner, je vais commencer à vous insulter. Bon, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, en fait, le nom. Je vais vous traiter tous de tous les noms, mais le nom que je vais vous donner aujourd'hui est un nom qui a également été donné à Jésus-Christ. Alors, cela ne peut pas être si grave, n'est-ce pas? On lui a donné certains noms. Et le nom que je vais vous donner aujourd'hui est un nom qui a été donné au Christ lui-même. Ouvrez votre Bible à 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15. Pensez à tous les noms dont on a affublé Christ. Franchement, dans certains cas, ce n'étaient pas tous des noms flatteurs. Dans d'autres cas, il était. Mais ouvrons 1 Corinthiens 15. Nous allons commencer à lire au verset 16, 1 Corinthiens 15. Commençons au verset 16, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, nous sommes encore dans nos péchés. C'est évidemment une bonne chose qu'il soit ressuscité dans ce cas, mais continuons à lire ici. Au verset 18, alors ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. Donc, encore une fois, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes toujours dans nos péchés, et ceux qui sont morts en Christ, ils ont tout simplement disparu. Ils sont partis pour toujours. Verset 19. Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et est devenu les prémices. Les prémices de ceux qui se sont endormis. Et j'ai marqué ici, dans ma Bible, un prémices. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais Christ a été appelé prémisse. C'est le nom qui lui a été donné. Et vous vous demandez, d'accord, est-ce le nom que Monsieur Wingfield va nous donner aujourd'hui? Eh bien, tournons-nous vers le chapitre 1 de Jacques. Le chapitre 1 de Jacques. Nous voyons que Christ a été appelé prémisse. Nous allons nous tourner vers Jacques, pour voir s'il était le seul à porter ce nom. Jacques. Chapitre 1, à partir du verset 16. Jacques, chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu est constant. Il est immuable. Verset 18. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà donc, frères. Nous sommes aussi appelés les prémices. Je viens donc de vous donner un nom. Je viens de vous donner à tous le nom de prémices. Nous avons vu que ce nom avait été donné au Christ, et je vous appelle tous, y compris moi-même, je nous appelle tous prémices. Maintenant, pour mémoire, Ce n'était pas le surnom qu'on me donnait dans la cour de récréation. Vous en avez eu un petit aperçu avec le cheval qui parle. Mais on m'a donné d'autres surnoms, mais on ne m'a pas appelé Prémisse. Mais maintenant, frère, avec vous tous, nous sommes tous connus comme des Prémisses. Maintenant, pourquoi des Prémisses? Réfléchissez-y, et peut-être que vous ne savez pas grand-chose à leur sujet. J'en sais un peu, mais j'en sais beaucoup plus maintenant après m'être préparé pour ce message. Mais pourquoi les Prémisses? Les Prémisses sont petites. Elles précèdent la grande moisson, la moisson principale. Pourquoi se concentrer sur un élément si minuscule de la moisson, surtout quand il y a une moisson bien plus grande et plus abondante qui vient plus tard? Pourquoi se concentrer sur quelque chose d'aussi minuscule? Eh bien, en réalité, le fait que Dieu appelle Christ prémisse et qu'il nous appelle prémisse en dit long sur la façon dont Dieu nous voit, sur la façon dont Dieu voyait son Fils, Jésus-Christ. En nous appelant prémisse, cela nous en dit long sur la perspective de Dieu. En réalité, être appelé prémisse, mes frères, comme nous le verrons aujourd'hui, être appelé prémisse est l'un des plus grands noms que l'on puisse recevoir, en particulier dans le contexte de la Pentecôte, dans le contexte des Écritures. Être appelé prémisse est l'un des plus beaux titres qu'on puisse recevoir. Aujourd'hui donc, en ce jour de la Pentecôte, nous allons découvrir pourquoi Dieu a choisi cette date. Il a choisi la Pentecôte. Il n'a pas choisi la Pâque, ni la fête des trompettes, ni le jour des expiations, ni même la fête des récoltes. Il a choisi la Pentecôte pour mettre en avant les prémices, et c'est sur ce point que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Nous avons vu que prémices était un titre donné au Christ, et, bien sûr, comme nous l'avons lu, c'est un titre qui nous est donné à nous aussi. Mais que sont exactement les prémices? Dans notre société moderne, cela peut être difficile à comprendre vraiment. D'accord, vous entendez ce terme « prémisse » et cela semble assez clair, cela semble assez simple. Mais dans notre société moderne, il peut être difficile de vraiment comprendre et d'apprécier la signification de ce que sont les prémisses. Maintenant, si vous êtes agriculteur, vous comprenez probablement. Peut-être même un jardinier, si vous avez eu un jardin, selon sa taille, vous le comprenez plus ou moins. Mais les agriculteurs et les jardiniers comprendront cela bien mieux que les autres, alors que cela peut être plus difficile à saisir pour ceux d'entre nous qui ne viennent vraiment pas de ce milieu, et en particulier dans notre société. Je veux dire que cela a été écrit à une époque où la société était beaucoup plus agraire, mais dans notre société moderne, il peut être plus difficile d'apprécier et de comprendre ce que sont les prémices, de comprendre ce qu'elles sont physiquement et, par conséquent, de comprendre ce qu'elles sont spirituellement. Mais les prémices et leur compréhension, mes frères, sont essentielles pour tirer le meilleur parti de la Pentecôte. Si nous ne comprenons pas vraiment ce que sont les prémices, ou du moins si nous ne les comprenons pas à un niveau plus profond, nous risquons de passer à côté de la signification importante de la Pentecôte. Maintenant, je dois admettre que quand je pense à la Pentecôte, je pense bien sûr au Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, au Consolateur, à la pensée de Dieu, et à toutes ces choses. Je pense aussi à la naissance de l'Église. Nous en avons entendu parler tout à l'heure, et à la fondation de l'Église. C'est ce à quoi je pense à la Pentecôte, et vous m'avez posé des questions sur la Pentecôte. Ce sont parmi les premières choses qui me viennent à l'esprit. Mais je dois avouer que je ne pense pas toujours aux prémices. En fait, c'est un peu. Je dois me concentrer pour me dire, ah oui, c'est vrai, les prémices. Et mes pensées commencent à devenir un peu floues, petit rire, à ce sujet, et je pense qu'au fond, C'est parce que je ne, ce n'est tout simplement pas ainsi que nous pensons, en particulier dans notre société, où nous ne cultivons pas les choses de la même manière. Donc, j'ai entendu parler des prémices dans des sermons, j'ai lu des articles à ce sujet, mais les choses commencent à devenir un peu floues. Il y a les prémices, et il y a la gerbe agitée. Qu'est-ce que c'est? Et puis, oh, attendez une minute, il y a aussi les pains agités. Et quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose? Ça peut être un peu difficile à comprendre. Mais c'est peut-être juste moi. Peut-être que vous comprenez tous cela à un niveau plus profond, et que c'est très simple pour vous. Mais si vous êtes comme moi, cela peut être un peu difficile à comprendre. Donc, une partie de ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment approfondir cela, vraiment décomposer le sujet. D'accord, qu'est-ce que ces prémices? Parler un peu de la gerbe agitée et des pains agités, et approfondir tout cela. Donc, encore une fois, nous nous concentrons sur ce que sont les prémices. Maintenant, la meilleure façon de procéder, c'est peut-être de prendre un peu de recul et de vraiment comprendre ce que Dieu fait, comment il pense, comment il communique avec son peuple. Dieu a établi, lorsqu'il a établi les jours saints, il les a fixés autour de deux récoltes majeures, deux récoltes au cours d'une année donnée. Or, la plupart des gens pensent peut-être à une seule récolte. Dans la plupart des endroits, on commence tôt dans l'année, puis on a cette récolte finale qui arrive à la fin. Eh bien, dans cette partie du monde où cela a été écrit, c'est-à-dire au Moyen-Orient et en Palestine, il y avait deux récoltes. Et Dieu a fixé les jours saints autour de ces deux récoltes. Il y avait une récolte précoce au printemps, puis une récolte plus tardive à l'automne. Et pensez aux jours saints du printemps et aux jours saints de l'automne. Et Dieu a fixé ces jours saints autour de ces récoltes. Or, la première récolte était celle du printemps, et elle suivait les pluies d'hiver. Quand on pense à l'hiver, ce n'est pas, nous parlons ici du Moyen-Orient, donc l'hiver n'est pas tout à fait le même. Il fait froid, mais il n'y a pas de chute de neige ni tout cela. Donc, après les pluies d'hiver, vous aviez cette petite récolte. Et cette petite récolte de printemps se terminait à la Pentecôte. Bon, alors pensez à aujourd'hui, c'est la Pentecôte, et repensez à il y a des milliers d'années. Cette première récolte de printemps se terminait à la Pentecôte. Maintenant, la deuxième récolte plus importante, se terminait à la fin de l'été, au début de l'automne. Alors, pensez aux fées d'automne. Vous avez donc les fées du printemps, la récolte du printemps, les fées de l'automne, la récolte de l'automne. Et cette récolte d'automne était bien plus importante que la récolte du printemps. Or, la récolte du printemps, et ce qui était récolté, était connu sous le nom de prémices. Il s'agissait donc des prémices de cette récolte donnée. C'était la première pousse, ou le premier rendement des récoltes pour cette année-là. Le fermier, il cultivait les récoltes, ou il récoltait les récoltes au printemps, la récolte de printemps se terminait vers la Pentecôte, et les récoltes continuaient à pousser, et mûrissaient jusqu'à l'automne, puis il y avait une récolte bien plus importante à l'automne. Très bien, vous avez donc une récolte de printemps, qui est beaucoup plus modeste, connue sous le nom de prémices, la première récolte de l'année, et cela se prolongeait jusqu'à l'automne, où vous aviez une récolte bien plus abondante. Donc, récolte de printemps, récolte d'automne. Fête de printemps, fête d'automne. C'est donc très important, et cela pose véritablement les bases pour aller de l'avant. Maintenant, où se situe la gerbe agitée et les pains agités? Où s'inscrivent-ils dans l'ensemble de ces récoltes de printemps et d'automne? Ils s'y inscrivent bel et bien, et ils en constituent une partie importante, ainsi qu'une partie importante de la compréhension de ce système. Ouvrez votre Bible au chapitre 23 du Lévitique. Nous allons lire le passage concernant la gerbe agitée. Lévitique 23. Il s'agit surtout de comprendre les termes utilisés. Ce n'est pas excessivement compliqué, il suffit de saisir ces termes et de voir comment ils s'articulent entre eux. Mais nous allons lire le passage concernant la gerbe agitée. Lévitique 23, nous commencerons au verset 10. Lévitique 23, verset 10. On y lit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous en ferez la moisson, d'accord, nous avons parlé de la moisson, vous en ferez la moisson, et vous apporterez au prêtre une gerbe des prémices de votre moisson. Vous apporterez donc cette gerbe de ce qu'on appelle les prémices au prêtre. Et il agitera la gerbe devant l'Éternel pour qu'elle soit acceptée en votre faveur le lendemain du sabbat. Prêtres l'agiteront. Bon, vous avez donc cette gerbe des prémices. Or, une gerbe signifie simplement un tas ou un faisceau. Ainsi, le fermier, celui qui cultivait les champs, était censé apporter un faisceau des prémices, la première récolte de cette année-là au printemps. Il devait l'apporter au prêtre le lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain. Bon, donc ce sont les pains sans levain, c'est le lendemain du sabbat. Ce n'est certainement pas quelque chose que l'on fait le jour du sabbat. Donc, ce serait le lendemain du sabbat, c'est-à-dire un dimanche, toujours un dimanche, il apporterait un tas, ou un faisceau, des prémices de cette récolte. Et généralement, c'était de l'orge. L'orge poussait assez tôt et commençait tout juste à mûrir. Et le fermier apportait un tas, ou un faisceau d'orge au prêtre pour qu'il soit agité. Et bien que cette orge fût les tout premiers tiges, les premiers épis, ils étaient soigneusement coupés et mis en faisceau, puis apportés au prêtre. Ils n'étaient pas mangés. Le fermier ne prenait pas ce grain, ne le coupait pas immédiatement et ne commençait pas à le manger. Il ne le moulait pas en farine pour le stocker. Ce premier fruit, la première récolte de cette culture, était offert. On l'apportait au prêtre, et il était offert. Et ce prêtre prenait ce faisceau et l'agitait devant Dieu. C'est un geste très symbolique. Il était apporté au prêtre, et il était agité devant Dieu. Il était offert au nom du peuple. Et le moment choisi pour cela était important. C'était le lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain. Toujours un dimanche. Personne ne mangeait, personne ne pouvait manger de ces. De la nouvelle récolte jusqu'à ce que cette gerbe soit offerte. D'accord? Et c'est important. Le verset 11 dit, « Cela a été fait pour être accepté en votre faveur. » Ainsi, cette petite partie précoce de la moisson représentait en fait la moisson tout entière. Ainsi, les prémices, ce faisceau, ce tas de prémices étaient apportés devant le prêtre, ou au prêtre, agités devant Dieu, consacrant toute la moisson du printemps. Ces prémices représentaient la moisson du printemps tout entière. Exactement. Donc c'était une façon de voir les choses et de considérer que le fait d'apporter les prémices, juste le faisceau, le petit faisceau, d'apporter ces prémices et de les agiter devant Dieu, c'était comme débloquer toute la récolte. Toute la récolte de printemps pouvait alors être consommée, stockée, tout ce qui se passait normalement. Mais cela ne pouvait se faire qu'après que les prémices, ce tas, ou ce faisceau, cette portion, aient été apportées au prêtre et agitées devant Dieu. Bon, alors souvenez-vous, l'ensemble des récoltes de printemps sont toutes appelées prémices. Donc, L'ensemble de la récolte de printemps constituait les prémices. Mais ce faisceau qui était coupé le lendemain du sabbat pendant les jours des pains sans levain, c'était le premier des prémices. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Nous en parlerons un peu. On l'appelait la première des prémices. Et il est très important que nous comprenions cela. Allons à Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont peut-être entendu, d'accord, les prémices des prémices. J'ai déjà entendu cela. En fait, n'est-ce pas quelque chose qui a un rapport avec Jésus-Christ? Les prémices des prémices? Bon, allons à Jean chapitre 1. Nous allons lire ici un exemple, ou plutôt un récit qui va le confirmer. Jean chapitre 1, nous allons commencer au verset 15. Jean chapitre 1, verset 15. Et Jésus, c'est Christ après avoir été crucifié, torturé, battu, crucifié, tué, et maintenant il est ressuscité d'entre les morts. Jean chapitre 1, verset 15. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi cries-tu? Qui cherches-tu? » Elle, je crois qu'il s'agit de Marie, elle, le prenant pour le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'emporterai. » Elle se dit donc, « Bon, c'est le jardinier. » Elle vient au sépulcre, le corps du Christ, son cadavre a disparu. Elle dit donc au jardinier, « Bon, si tu as fait quelque chose avec le corps, dis-le-moi simplement, pour que je puisse m'en occuper. » C'est bien sûr Christ qui lui parle. Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, « Rabboni, ce qui signifie maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, Christ dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Bien sûr, Marie le voit, elle se rend compte que c'est lui, et elle voulait sans doute l'étreindre d'une manière ou d'une autre, lui témoigner une certaine affection. Et il a dit, « Ne me touche pas. » Petit rire, « Ne me touche pas encore. » Je dois aller vers mon Père, et être présenté à mon Père, présenté à Dieu, avant que tu puisses me toucher. Bon, que se passe-t-il? Pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il, ne me touche pas encore? Eh bien, Christ dit, ne me touche pas, car je dois être accepté par mon Père. Je dois être agité, ou présenté à Dieu avant que vous puissiez me toucher. Tout comme ce tas, ou ce faisceau de grains qui est sorti en premier, les prémices devaient être présentées devant Dieu, avant cette moisson, avant que les prémices puissent être acceptées. Ainsi, ce qui se passait physiquement avec cette moisson était en train de se produire, et cela se faisait, cela se passait réellement, mais cela se faisait avec un lien spirituel. Christ est ici le premier des prémices. Jésus-Christ fait en réalité partie de la moisson. Il est simplement le premier de la moisson des prémices, tout comme la gerbe agitée était la première des prémices. Christ a été le premier à être ressuscité d'entre les morts, et le premier à être accepté par Dieu. Maintenant, frères, c'est passionnant, car s'il est le premier, quand on appelle quelqu'un le premier, cela signifie qu'il y en aura d'autres après lui. On ne dit pas « premier » s'il est le seul. Ainsi, Christ était le premier des prémices. Il était la première partie de la moisson. Et sa mort et sa résurrection ont ouvert la voie pour que les autres prémices soient également ressuscités et vivent ce que Christ a vécu. Ainsi, cette première gerbe, ce premier petit paquet d'orge, avait une signification pour toute la moisson, vous vous souvenez? De même, le fait que Christ soit ressuscité d'entre les morts, ramené à la vie, a une signification plus grande pour toute l'humanité. Souvenez-vous, le premier des prémices avait une signification pour toute la moisson. La résurrection du Christ d'entre les morts a une signification pour toute la moisson. Cette fois-ci, la moisson des êtres humains. Frères et sœurs, c'est une compréhension extraordinaire. On n'entend pas cela, on ne, ce n'est pas, ce ne sont pas des choses qui sont enseignées et comprises dans les églises du monde. C'est l'Ancien Testament, cela n'a rien à voir avec nous. Non, c'est le plan de Dieu. Petit rire, nous le comprenons à la Pentecôte. Christ s'est présenté à Dieu un dimanche, souvenez-vous, le lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain. Si vous regardez au verset 19, que dit-il? Je suis toujours ici, dans Jean chapitre 1, le même jour, le jour même où tout cela s'est passé, où il a rencontré Marie, le soir, c'était le premier jour de la semaine. Donc, c'est un dimanche. Donc, tout comme la gerbe agitée était agitée un dimanche, le lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain, tout cela se passait dans le même laps de temps. C'est donc la gerbe agitée, c'est très important à comprendre. Maintenant, à partir de ce dimanche, avancé de 50 jours, et où arrivez-vous? Vous arrivez à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Or, les Israélites, ils travaillent toujours avec les prémices. Pendant tout ce temps, ces 50 jours, ils travaillent toujours avec ces prémices, toujours avec cette moisson de printemps. Ils avaient déjà consacré la gerbe agitée. Les premières des premières récoltes, ils les avaient déjà consacrées et agitées, ils les avaient apportées aux prêtres pour qu'ils les agitent devant Dieu. Ils travaillent donc toujours sur ces premières récoltes. Mais maintenant, les récoltes ont commencé à... Elles ont dépassé le stade de la simple gerbe de blé. Revenons donc au Lévitique chapitre 23. Revenons au Lévitique chapitre 23. Cela fait 50 jours depuis le lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain, où la gerbe agitée a été agitée devant Dieu. Revenons au Lévitique chapitre 23. Voyons ce qu'il en est de la galette agitée, des galettes agitées. Lévitique 23, verset 16. Lévitique 23, verset 16 dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain des 7 sabbats, vous comptez 50 jours, et vous offrirez une nouvelle offrande de nourriture à l'Éternel. Tu feras sortir de ta demeure deux pains agités de 2/10 des pôtres. Ils seront de fleurs de farine. Ils seront cuits avec du levain. Nous en parlerons. Ce sont les prémices pour le Seigneur. Donc, ces pains agités, ce sont simplement des pains, faits avec les grains des prémices, cuits avec du levain. Ces pains étaient également consacrés à Dieu. Et ils étaient agités, les pains étaient agités à la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ils étaient agités 7 sabbats, soit 50 jours après la gerbe agitée. Donc, la Pentecôte, un autre nom pour la Pentecôte est la fête des semaines, car 7 semaines se sont écoulées depuis le lendemain du sabbat des jours des pains sans levain, lorsque la gerbe agitée a été agitée. 7 semaines se sont écoulées, donc un autre nom pour ce jour saint de la Pentecôte est la fête des semaines. Et vous remarquez que ces pains agités sont appelés prémices, tout comme la gerbe agitée. Christ a été appelé prémices. Comment sommes-nous appelés, frères? Nous sommes appelés prémices. La gerbe agitée est une prémisse, les pains agités sont des prémices. Or, la différence entre le pain agité et la gerbe agitée, c'est que le pain agité contient du levain. C'est du pain, il a été cuit avec du levain, et il est gonflé. Le pain est gonflé, il est levé. Nous savons que le levain, en particulier quand on pense au jour des pains sans levain, représente le péché. Dans ce cas, c'est un signe de l'humanité. Nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Vous avez donc ce pain fait de prémices. Ce pain contient du levain, il représente l'humanité. Il représente les gens. Et ces deux pains, les prémices, ont également été cuits et agités devant Dieu. Les pains agités, mes frères, représentent un petit groupe de personnes qui sont appelées, formées et offertes à Dieu en tant que son peuple. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous tous, mes frères, nous sommes représentés par ces pains agités. Et devinez ce que cela signifie également. Nous sommes les prémices. Tout comme Christ était une prémisse. Nous sommes les prémices. Il a été agité devant Dieu le lendemain du sabbat, pendant les jours des pains sans levain. Quand sommes-nous agités devant Dieu? À la Pentecôte. Frères et sœurs, c'est nous. Cela nous représente. La gerbe agitée, Christ était parfait, sans péché, et s'est agité lui-même. Il s'est agité seul. Mais les pains agités, nous tous, le peuple de Dieu, au pluriel, le peuple de Dieu, les humains, tout au long du plan de Dieu, nous avons été sanctifiés et acceptés, et également agités et acceptés par Dieu à la Pentecôte. Nous sommes le premier groupe de personnes, nous sommes les prémices préparées pour le royaume de Dieu, qui amènera finalement une moisson bien plus grande de personnes à venir plus tard. C'est un honneur extraordinaire. Ouvrez à l'Apocalypse chapitre 14. C'est un honneur extraordinaire d'être les prémices. Apocalypse chapitre 14. Nous allons lire une série de versets familiers, mais j'espère que cela vous apparaîtra sous un jour un peu différent. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ce sont ceux-là qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Nous allons lire au sujet des 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Spirituellement parlant, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes. Pour être quoi ? Les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Frères et sœurs, les 144 000 sont les prémices. Les prémices pour Dieu. Nous sommes les prémices. C'est pourquoi la Pentecôte met l'accent sur les prémices. C'est un jour extraordinaire, ce jour saint dans le plan de Dieu. Il met l'accent sur les prémices. Le Saint-Esprit est évidemment important. Le commencement de l'Église, très important, tout cela fonctionne ensemble. Mais apprécier et comprendre ce que sont les prémices, et ce que cela signifie, est crucial, crucial pour comprendre ce jour. Cette fête, ce jour de la Pentecôte, honore l'appel, la formation et l'offrande d'une moisson précoce, une moisson précoce d'êtres humains qui sont présentés devant Dieu. Ils sont appelés maintenant, en cette époque, et eux, les prémices, nous tous, nous nous préparons pour la moisson spirituelle bien plus grande de l'humanité qui viendra plus tard. Frères et sœurs, voyez-vous dans ces pains agités présentés devant Dieu. Comprenez que Dieu nous a élevés et nous a acceptés comme faisant partie de son plan. Nous sommes une offrande faite à Dieu. Tout aussi sûrement que le prêtre a pris le pain, les pains, les a agités et les a présentés à Dieu, nous avons été présentés à Dieu. C'est un honneur extraordinaire. Nous faisons partie d'une moisson précoce, précieuse et symbolique, une moisson d'êtres humains. Dieu aurait pu nous appeler, nous tous, il aurait pu nous appeler à l'automne, lors de la moisson d'automne, la grande moisson d'êtres humains à venir. Dieu aurait pu faire cela. La grande majorité des gens sera appelée lors de la moisson d'automne. Mais au lieu de cela, Dieu nous a sélectionnés et choisis lors de la moisson de printemps, la moisson précoce. Nous sommes les prémices. C'est passionnant. C'est passionnant. Étrapler Prémis est l'un des plus beaux noms que l'on puisse recevoir. Dieu nous appelle Prémis pour tant de raisons. Examinons-en plusieurs. Examinons-en plusieurs. Tout d'abord, les Prémis représentent la plus haute qualité, ou la meilleure partie. Or, concrètement, les Prémis n'étaient pas simplement les premières récoltes, les récoltes les plus précoces de la saison. C'étaient les plus robustes, les plus colorées, les mieux formées, la crème de la crème. Ainsi, lorsque l'on pense à ces premières prémices, les premières parmi les prémices, et que l'on repense au Christ, c'est une analogie merveilleuse et étonnante. Mais les prémices étaient les fruits les plus sains de la récolte. C'étaient les meilleurs parmi les meilleurs. Ouvrez votre Bible à Exode chapitre 23. Être appelé prémisse est l'une des meilleures choses que l'on puisse être. Exode chapitre 23. Verset 19. Exode chapitre 23. Verset 19. Tu apporteras les premières des prémices de ton pays dans la maison de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne laisseras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Le texte continue ensuite en donnant d'autres instructions. Mais Dieu ordonne que les premiers fruits de la terre soient apportés dans la maison de Dieu. Les agriculteurs devaient aller cueillir les prémices. Ils ne pouvaient pas cueillir les fruits maigrichons, à moitié mûrs. Ils devaient cueillir le meilleur du meilleur. Ils devaient examiner attentivement. Ils devaient regarder, réfléchir. Bon, nous présentons quelque chose devant Dieu. Il faut que ce soit le meilleur du meilleur, le plus sain, la plus belle couleur. Il fallait sélectionner les grains les plus pleins. C'était un acte de respect, un acte de révérence que d'offrir à Dieu le meilleur du meilleur. Frères et sœurs, les offrandes appropriées, qu'il s'agisse d'offrandes matérielles, nous avons fait une offrande plus tôt dans la journée, ou d'offrandes spirituelles. Les offrandes appropriées attirent l'attention de Dieu. Allez à Genèse 4. Allez à Genèse 4. Dieu a établi l'importance des offrandes. Dans ce cas, il s'agit d'offrir les prémices, mais ce principe s'applique de manière générale. Les offrandes appropriées attirent l'attention de Dieu, et il l'a établi dès le début. Nous allons lire ici le récit d'Abel, et nous allons lire le récit de l'offrande d'Abel. Nous appellerons Abel l'un des enfants d'Adam et Ève. Genèse chapitre 4, nous allons lire le verset 2. Genèse chapitre 4, verset 2 et elle, en référence à Ève, enfanta son frère Abel. Et Abel était berger, mais Caïn était laboureur. Et au bout d'un certain temps, il arriva que Caïn apporta le fruit de la terre en offrande au Seigneur. Et Abel, lui aussi, apporta les premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire les premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse, le meilleur du meilleur, et le Seigneur regarda favorablement Abel et ses offrandes. Les offrandes dignes de ce nom, qu'elles soient financières, spirituelles ou autres, attirent l'attention de Dieu. Les offrandes dans lesquelles nous mettons tout notre cœur, auxquelles nous réfléchissons, auxquelles nous accordons de l'importance, celles-là attirent l'attention de Dieu. Dieu se soucie de la qualité de l'offrande. Les prémices des prémices, ou les prémices en général, lui étaient apportées. Il fallait que ce soit le meilleur du meilleur. Christ remplissait certainement les conditions pour être considéré comme la première des prémices, comme le meilleur du meilleur. Il était véritablement le meilleur du meilleur. Allez au chapitre 2 de Philippiens. Chapitre 2 de Philippiens. Être appelé prémisse est un signe de la plus haute qualité ou de la meilleure part. Christ répondait certainement à cette norme. Chapitre 2 de Philippiens. Et nous allons voir ce qui en a résulté. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant été trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous lisons ici les caractéristiques de Jésus-Christ, ce qui l'a aidé à se qualifier comme le premier des prémices. Nous lisons ici l'humilité. Nous voyons l'obéissance. C'est de Jésus-Christ dont nous parlons. Verset 9. C'est pourquoi, c'est-à-dire en raison de la manière dont il s'est conduit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant, humble, et prêt à mourir. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'était le résultat d'être le premier des prémices. Dieu l'a accepté comme premier des prémices. Il était le meilleur des meilleurs. Christ était le plus grand de toutes les prémices. Mais qu'en est-il de nous, frères? Qu'en est-il de nous? Nous sommes également appelés prémices. Ouvrez votre Bible à Exode 19. Exode 19. Si Christ était le meilleur des meilleurs, ne devrions-nous pas être les meilleurs? S'il est le meilleur des meilleurs, cela signifie que nous sommes également les meilleurs. Nous devrions l'être. Exode 19. Exode chapitre 19, nous reprendrons au verset 6. Exode chapitre 19, verset 6, nous venons de lire à propos de Jésus-Christ. Lisons ce qui nous concerne. Exode chapitre 19, nous allons reprendre au verset 5. Maintenant donc, si nous obéissons, cela vous semble familier, vous vous souvenez que Christ était obéissant jusqu'à la mort. Si vous obéissez à ma voix, en effet, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples. Rappelez-vous, Christ avait un nom au-dessus de tout autre nom. Eh bien, si nous sommes obéissants et que nous gardons l'alliance, nous serons un peuple particulier pour Dieu parmi tous les peuples. Car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'était l'instruction que Moïse devait donner. Dieu appelle son peuple, ceux qui lui obéissent et gardent son alliance. Il les appelle les meilleurs parmi les meilleurs. Ils sont placés au-dessus de tous les autres peuples. Ils sont mis à part. Ils sont excellents. Ils sont précieux à ses yeux. Ils sont pour lui les prémices. Frères et sœurs, où en sommes-nous? Sommes-nous les meilleurs? Nous conduisons-nous comme les meilleurs? Obéissons-nous à la voix de Dieu? Respectons-nous son alliance? Sommes-nous à la hauteur de cette description? Offrons-nous chaque jour à Dieu ce qu'il y a de mieux en nous? Lui consacrons-nous notre temps le plus précieux? Notre cœur tout entier? Nos efforts les plus intenses? Avons-nous la même attitude qu'Abel, qui a donné à Dieu la graisse, les premiers-nés de son troupeau? Ou ne donnons-nous à Dieu que les restes, les miettes? Tout ce qui reste. Oh, c'est vrai. Je vais donner cela à Dieu. Nous n'avons pas lu de récit à son sujet, mais c'est l'attitude qu'avait Caïn. Les offrandes appropriées attirent l'attention de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous donne le meilleur de lui-même, nous devons lui donner le meilleur de nous-mêmes. C'est tout simplement juste. C'est tout simplement normal. Oui, nous sommes dans la chair. Oui, nous sommes humains. Y a-t-il des jours où nous ne donnons pas toujours le meilleur de nous-mêmes à Dieu? Bien sûr, mais cela ne devrait pas être la norme. Cela ne devrait pas être notre habitude. Si nous voulons le meilleur de Dieu en tant que prémisse, nous devons donner à Dieu notre meilleur en tant que prémisse, et il est disposé à le faire. Il veut le faire. Frères et sœurs, c'est cela être une prémisse, la plus haute qualité, le meilleur. Mais une autre raison pour laquelle nous sommes appelés prémisses, c'est que les prémisses représentent la promesse, et elles représentent l'espoir. Nous avons donc vu comment elles représentent le meilleur, ou la meilleure qualité, mais les prémisses représentent aussi une promesse et un espoir. Concrètement, imaginez-vous un agriculteur, surtout à cette époque, mais je suis sûr que cela s'applique aussi aujourd'hui. La vue des prémisses donnait à cet agriculteur l'espoir que la saison de croissance allait être bonne. Il voit les fruits, les prémisses, sortir de la terre. Cela lui indique que la saison agricole est en bonne voie. Tout fonctionne. La terre est fertile, et une récolte abondante, d'abord une récolte de printemps, puis une récolte plus abondante à l'automne, est à venir. Quand il a vu ses premiers fruits naître, il a su, il a eu l'espoir, qu'une récolte plus abondante était en route. Sans ses premiers fruits, il n'y avait vraiment aucune garantie que les cultures seraient fructueuses. Si les premiers fruits échouaient, alors la récolte pouvait échouer. C'était un signe de ce qui allait arriver. Mais une fois que les prémices sont apparues, l'espoir était vivant. Il savait, tu sais quoi? La récolte sera bonne cette année. Nous allons avoir une saison de culture fructueuse. Frères et sœurs, spirituellement parlant, les prémices, et des prémices saines, montrent que le plan de Dieu fonctionne, qu'une plus grande moisson est en route. D'abord, c'était Christ. Il était le premier des prémices. Il a réussi. Maintenant, c'est le reste des prémices, nous tous, l'Église. Comment nous en sortons-nous? Si nous faisons bien notre travail, si Christ a fait le sien et que nous faisons le nôtre, devinez quoi? C'est au tour de toute l'humanité. La grande moisson à venir, c'est ce que symbolise l'automne. Lorsque nous voyons que tout est en bonne voie, lorsque Dieu voit que tout est en bonne voie avec Christ et son peuple, cela lui donne, et nous donne, l'espoir que la grande moisson viendra plus tard. Ouvrez votre Bible au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Le fait de voir le plan de Dieu lié aux récoltes physiques et à la croissance des choses rend ces plans tellement plus faciles à comprendre. C'est en grande partie pour cela qu'il a procédé ainsi, afin que nous puissions le comprendre. Romains chapitre 8, nous reprendrons au verset 22. Romains chapitre 8, verset 22. Car nous savons que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous-mêmes, nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car nous sommes quoi? Sauvés par l'espérance. Nous avons les prémices de l'Esprit, qui nous rappellent et nous disent que nous sommes sauvés par l'espérance de ce qui vient, mais l'espérance qui se voit n'est pas l'espérance. Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espérerait-il encore? Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espérerait-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Ainsi, tout ce plan n'est pas encore pleinement accompli. Pensez à un agriculteur, il est plein d'espoir. Il sème les graines, il attend de voir les prémices. Quand ces prémices apparaissent, qu'est-ce que c'est? Que font-elles? Elles lui donnent l'espoir que le reste de la récolte se développera et sera tout à fait bonne. que cette récolte plus abondante sera tout à fait bonne. Dans ce cas, nous, frères, nous sommes la preuve que le plan de Dieu fonctionne. Christ a fait sa part en tant que premier des prémices. En tant que peuple de Dieu, nous avons les prémices de son esprit. Nous sommes le premier signe annonciateur de la moisson plus abondante qui viendra plus tard. Le plan de Dieu est en bonne voie. Cela nous donne de l'espoir. Notre travail consiste simplement à rester plein d'espoir et à faire notre part en tant que prémices. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas nécessaire. Le plan de Dieu est en bonne voie. Nous sommes les prémices. Nous sommes la preuve qu'une moisson plus abondante viendra plus tard. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. N'abandonnez pas. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Avoir confiance. Vous savez ce qu'est la confiance. Quand vous avez confiance en quelque chose, vous savez que cela va arriver. Vous êtes confiant. Étant convaincu de ceci, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, nous sommes les prémices. Dieu nous aide à grandir. Nous sommes la preuve que le plan de Dieu, son plan plus grand, est en bonne voie. C'est une promesse. Frères et sœurs, nous devons avoir confiance en ce que Dieu est en train de faire. En tant que prémices de la promesse et de l'espérance, vivons-nous chaque jour dans l'espérance que le plan de Dieu se réalise? Sommes-nous confiants que la moisson complète de Dieu va arriver? Que les membres de notre famille feront partie de cette moisson complète? Que nos collègues feront partie de cette moisson complète? Que nos voisins feront partie de cette moisson complète? Le plan de Dieu est tellement plus grand. Tellement plus grand. Lorsque les épreuves surviennent, nous rappelons-nous, je fais partie de la moisson garantie de Dieu. J'en fais partie. Le plan de Dieu s'accomplit. Frères et sœurs, nous devrions penser ainsi. Nous ne devrions jamais perdre espoir. Ne perdez jamais espoir. Les prémices en sont un signe d'une promesse, la promesse de Dieu d'une moisson maintenant, et d'une moisson bien plus grande à venir. Une autre raison pour laquelle on les appelle les prémices, c'est qu'elles représentent la gratitude et la confiance. Nous avons vu comment elles représentent le meilleur du meilleur, la plus haute qualité, ainsi qu'une promesse et un espoir. Elles représentent également la gratitude et la confiance. Pour offrir les prémices, cela demande de la gratitude, et cela demande, en réalité, cela demande de la confiance et de la foi. Un agriculteur qui donne la partie la plus précoce, ou la meilleure, avant que le reste de la récolte ne soit rentré, c'était un signe de. Il fallait de la foi pour faire cela. Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, c'était un acte de foi. Vous avez cette nourriture dont tout le monde dépend, vous avez les prémices qui arrivent, et vous allez les donner au prêtre. Cela demandait de la foi. Le chapitre 3 des Proverbes était aussi un signe de gratitude et de confiance en Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Nous devons donc honorer Dieu avec nos biens, avec ce que nous possédons, qu'il s'agisse d'argent ou d'objets de valeur. Nous devons honorer Dieu avec ces choses, et nous le faisons en lui donnant les prémices de nos revenus. C'est ainsi que nous honorons Dieu, en lui donnant d'emblée. Or, donner à Dieu d'emblée, sans parler de lui donner le meilleur du meilleur, cela peut être difficile. Cela peut être difficile, cela peut être une chose difficile à faire. Cela demande de la confiance. la nature humaine est de se retenir de donner quoi que ce soit, sans parler de dire « je vais te donner le meilleur du meilleur ». Il faut de la foi pour faire cela. La nature humaine veut simplement s'accrocher à ce que nous avons. Ouvrez le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Voyons un exemple de cela. C'est un mauvais exemple. C'est un bon exemple d'un mauvais choix, devrais-je dire. 1 Samuel, chapitre 15. C'est un récit bien connu. Revoyons-le. 1 Samuel, chapitre 15. Il s'agit ici du récit où Samuel traite avec Saül, et Saül, le roi, avait reçu certaines instructions. Il n'a pas pleinement suivi ses instructions. Reprenons au verset 7, 1 Samuel 15. Verset 7, Saül bâtit les Amalécites depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il fit prisonnière Agag, roi des Amalécites, et il passa au fil de l'épée tout le peuple. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag le meilleur des brebis, des bœufs, des bêtes grasses, des agneaux, et tout ce qui était bon, et ils ne voulurent pas les détruire entièrement. On leur avait ordonné de tout détruire, mais ils décidèrent de ne pas le faire. Continuez à lire ici. Mais tout ce qui était vil et indésirable, ils l'ont détruit. Ils ont donc fait preuve de sélectivité. Ainsi, au lieu de tout détruire, ils ont pris le meilleur du meilleur et détruit le pire. Verset 20. Passons au verset 20. Et Saül dit à Samuel, « Oui, j'ai obéi à la voix du Seigneur. Il n'est donc pas honnête. On lui avait dit de tout détruire. Mais il a menti. Il a dit, « Oui, j'ai obéi à la voix du Seigneur, j'ai suivi le chemin que le Seigneur m'a tracé, j'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai complètement détruit les Amalécites. » Mais le peuple a pris une partie du butin, ce n'est pas là un bon leadership, que de rejeter la faute sur le peuple. Mais le peuple a pris une partie du butin, des brebis et des bœufs, le meilleur de ce qui aurait dû être entièrement détruit, pour l'offrir en sacrifice à ton Dieu à Gilgal. Dieu n'a pas dit de faire cela, de m'offrir des sacrifices, il a dit de tout détruire. Et Samuel dit, le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance à la voix du Seigneur? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Quand nous nous retenons, quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous ordonne de faire, dans ce cas-ci en gardant le meilleur du meilleur et en ne faisant pas ce que Dieu nous a ordonné de faire, c'est de la rébellion. C'est un péché. C'est de l'obstination. C'est de l'idolâtrie. C'est de la sorcellerie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a rejeté aussi pour que tu ne sois plus roi. Et Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, parce que j'ai craint le peuple et que j'ai obéi à sa voix. » Il a en fait dit une part de vérité là-dedans. Il a certainement péché. Il craignait certainement le peuple. Mais il était aussi simplement désobéissant. Il était simplement cupide. Il n'a pas montré de gratitude pour la victoire que Dieu lui avait donnée sur les Amalécites, ni fait confiance à Dieu pour prendre soin de lui. Il a dit, « Tu sais quoi? Ah, pourquoi laisser tous ces moutons et ces bœufs, ces magnifiques moutons et bœufs, se perdre? Pourquoi détruire tout cela? C'est de la bonne chose. C'est de la bonne matière. » Eh bien, à la suite de sa rébellion, il a été rejeté. C'est un exemple remarquable que nous devons garder à l'esprit, frères et sœurs. Lorsque nous consacrons notre vie à Dieu comme prémisse, nous devons avoir confiance qu'il pourvoira à nos besoins. Et la manière de montrer cette confiance, c'est de ne pas nous accrocher aux choses que nous pouvons contrôler. S'accrocher aux choses n'est pas la bonne manière de procéder. Remettons le meilleur à Dieu. Qu'il s'agisse de nos finances, comme lui confier les prémices de nos revenus, ou de nos efforts. Soyez confiants, si nous remettons le meilleur du meilleur à Dieu, il pourvoira au reste. En tant que prémices de gratitude et de confiance, retenons-nous des choses à Dieu. A. Dieu n'en a pas vraiment besoin. Ou, O. J'en ai vraiment besoin. Je sais que Dieu a dit de le faire, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Par exemple, versons-nous fidèlement la dîme? Faisons-nous fidèlement des offrandes? La principale raison pour laquelle les gens ne versent pas la dîme, pourquoi les chrétiens ne versent pas la dîme lorsqu'ils pêchent et ne la versent pas, c'est vraiment par peur. C'est un manque de foi, mais c'est par crainte de se dire, tu sais quoi? Si je donne 10%, si je donne 20% pour la fête, une année de dîme d'un tiers, et que j'obéis à cela, c'est par peur. Je n'aurai pas assez. Je n'aurai pas assez. Si je fais des offrandes les jours saints, je n'aurai pas assez. Ce n'est pas une mentalité de prémisse, une approche de prémisse. C'est s'accrocher à ce que nous avons. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu les mains vides lors de ces jours saints. Oui, c'est ainsi que Dieu accomplit son œuvre, que nous accomplissons notre œuvre, mais c'est aussi un acte d'obéissance et un acte de foi. C'est une manifestation de foi, une manifestation de confiance et de gratitude. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Sommes-nous égoïstes avec notre temps? Servons-nous les autres? Donnons-nous le meilleur de nous-mêmes pour servir les autres? Le faisons-nous sans enthousiasme? Ne le faisons-nous pas du tout? Frères et sœurs, une manifestation de gratitude, une manifestation de confiance, c'est de donner une partie de notre temps. Donner une partie de nos revenus. Dieu n'a pas tout demandé, il aurait pu. Mais il a demandé les prémices de nos revenus. 10% de notre dîme. Et c'est le brut, c'est l'argent que nous gagnons. La façon dont j'organise mon budget, c'est un détail, mais c'est un moyen de me le rappeler. Même sur ma feuille de budget, après les revenus, je mets d'abord les dîmes. Dieu reçoit la première part de nos revenus. Oui, tout est dans un grand A et cela part, mais même visuellement sur le budget, c'est en premier. Cela envoie le bon message, pas seulement à moi, et c'est un exemple que Dieu voit aussi. Une autre raison pour laquelle nous sommes appelés prémices est qu'elles représentent le dévouement et la consécration. Les prémices représentent le dévouement et la consécration. C'est très similaire à la gratitude et à la confiance, mais un peu différent. Les prémices sont aussi un signe de dévouement et de consécration. Lorsque le fermier offrait les prémices, il disait en substance, « Dieu, tout ce champ t'appartient. Je te donne une partie de ce qui t'appartient entièrement. » C'est une mentalité différente. C'est la vérité. C'est la réalité. Mais comprenez ceci, frères et sœurs, lorsque ce fermier donnait cette part, il reconnaissait, tu sais quoi? Dieu, tout cela est à toi. Tout est à toi. Toute cette récolte, tout le printemps, les prémices du printemps, les fruits et la moisson, tout cela t'appartient. Ouvrez le psaume 50. Psaume 50. Comprendre que tout appartient à Dieu change notre perspective. Psaume 50, verset 10. Psaume 50, verset 10. Car toutes les bêtes de la forêt sont à moi. C'est Dieu qui parle. Toutes les bêtes de la forêt sont à moi. Et le bétail sur 1000 collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et les bêtes sauvages des champs sont à moi. Si j'avais faim, Je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi, et tout ce qu'il contient. Dieu déclare et nous dit, tout m'appartient. C'est à moi. Cela change votre perspective. Oh, j'ai cette maison-là, et j'ai cette voiture-là, et j'ai ces choses-là, et ceci, cela, et l'autre, et cet argent sur le compte. Tout m'appartient. Lorsque nous donnons les prémices, frères, et que nous demandons les prémices, nous ne donnons pas cette orge qui a été donnée à Dieu. Elle ne lui a pas été donnée parce qu'il avait faim. C'était simplement une reconnaissance du fait que tout ce qui se trouve dans cette terre, ce qui vient de pousser et ce qui est encore dans la terre et n'a pas encore poussé, tout cela vous appartient. Restez ici dans le psaume. Allez au psaume 115. Psaume 115. Voici la clé. Voici la clé. Tout appartient à Dieu, quoi ? Voici la clé, le psaume 115, verset 15. Psaume 115, 15. Tu es béni par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, oui, les cieux sont au Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux enfants des hommes. Ainsi, consacrer les prémices revenait à consacrer tout le champ, toute la ferme, toute la saison à Dieu. Et en conséquence, Dieu permettait aux enfants des hommes, aux êtres humains, de posséder la terre, d'utiliser la terre. Mes frères, ne vous y trompez pas. Dieu nous permet d'utiliser quelque chose qui lui appartient. Lorsque nous savons, réalisons et nous souvenons que les choses appartiennent à Dieu, il est beaucoup plus facile de lui rendre ce qui était déjà à lui, plutôt que d'avoir l'impression de lui donner quelque chose qui nous appartenait. C'est un changement de mentalité. C'est la manière d'envisager les choses. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est un véritable revirement dans notre façon de penser. Nous rendons une partie de ce que nous avons en premier lieu. Nous nous donnons nous-mêmes, car nous appartenons à Dieu. Nous lui appartenons. C'est reconnaître sa puissance et son autorité dans nos vies. C'est lui qui tient les rênes. Ce n'est pas nous qui contrôlons. Lorsque nous donnons à Dieu une partie de notre vie, car nous allons le voir ici, c'est ce qu'il demande, une partie de notre temps, une partie de nos revenus, une partie de nos efforts. Lorsque nous rendons ces choses à Dieu, nous reconnaissons qu'il a autorité et pouvoir sur nos vies. Ouvrez votre Bible à Romains 12. Romains 12. Les prémices de la dédicace et de la consécration exigent que nous donnions une partie de nous-mêmes à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Pensez à la consécration et à la dédicace, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. J'ai dit à plusieurs reprises, donnez une partie de nous-mêmes à Dieu. Bien sûr, nous donnons tout notre être et toute notre existence à Dieu, mais quand je dis lui donner une partie, je parle d'une partie de notre temps. Par exemple, cette heure d'étude de la Bible que vous consacrez à Dieu, ou ce repos du sabbat, ce jour de la semaine, ou ce temps de prière où vous donnez à Dieu une partie de votre journée. Lorsque nous donnons cette partie à Dieu, cela lui permet de bénir toute notre vie. Dieu ne nous demande pas de prier et de lire la Bible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il ne nous demande pas de faire cela. Il nous demande de lui consacrer une partie de notre temps. Et lorsque nous le faisons, il bénit toute notre vie en conséquence. Le verset 2 de Romains 12 dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La manière dont nous nous consacrons, en tant que prémices, à Dieu, c'est en nous laissant transformer. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre intelligence. En conséquence, nous connaissons la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous sommes transformés et non conformés, et que nous donnons à Dieu cette partie de notre vie, cette partie de notre temps, il bénit le reste de notre vie. Il nous bénit à la maison. Il nous bénit au travail. Il nous bénit dans nos relations parce que nous avons donné à Dieu cette partie, ses prémices, le meilleur de ce que nous avons. Une autre raison pour laquelle nous sommes appelés prémices est que les prémices représentent un signe avant-coureur ou une préfiguration du plan plus vaste de Dieu. Elles sont un signe avant-coureur ou une préfiguration du plan plus vaste de Dieu. J'ai parlé tout au long de cette moisson bien plus grande qui va arriver. Nous connaissons le plan de Dieu, mais si vous regardez les prémices physiques, ces prémices étaient ce signal. Nous avons parlé du signal, mais c'est un signal indiquant que cette moisson plus grande finira par arriver. C'est une bonne terre. Ce sont de bonnes graines. On a pris grand soin de produire ces prémices. Donc, si nous continuons, cette moisson plus importante est en route. La terre est fertile, les conditions sont réunies, la grande moisson finira par arriver. Les prémices étaient ce premier signe, l'acompte garantissant que la terre produirait les fruits qu'elle devait produire. C'était un avant-goût ou une préfiguration de cette moisson bien plus importante qui allait arriver à l'automne. Frères et sœurs, Dieu est le cultivateur par excellence. Ouvrez votre Bible à Jean 15. Jean 15. Dieu est le cultivateur par excellence. Dans cette analogie dont nous avons parlé tout au long de notre étude, celle qu'il partageait avec son peuple, nous sommes bien sûr les récoltes. Nous sommes la croissance. Que ce soit Christ en tant que prémisse, ou les premières des prémices, ou nous en tant que prémisse. Mais nous sommes les récoltes. Nous sommes ceux qui poussent, et Dieu est le fermier. C'est lui qui fait pousser la récolte. Donc, Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep. » C'est Christ. « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron, ou le fermier, car c'est cela qu'est un vigneron, un fermier. » Ainsi, en tant que prémices spirituelles, nous tous, par la manière dont nous grandissons, nous donnons confiance à Dieu, en tant que ce fermier. Nous lui donnons confiance qu'une plus grande moisson est en route. Le petit troupeau, les prémices, nous tous, nous sommes le signe avant-coureur d'une moisson bien plus grande qui viendra à l'avenir dans le royaume de Dieu. Nous donnons au fermier, à Dieu, cette assurance qu'elle viendra. Nous sommes un avant-goût de ce qu'il accomplit avec toute l'humanité. Et Dieu, en tant que fermier, est très patient. Il est très patient. Et il veut que nous soyons patients. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Dieu, en tant que fermier, est très patient. Les meilleurs fermiers sont patients. Ils comprennent que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Les récoltes ne poussent pas du jour au lendemain. Jacques, chapitre 5, verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je vous le dis à tous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur, l'agriculteur, attend le précieux fruit de la terre et fait preuve d'une grande patience jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première saison et celle de la fin de la saison. Soyez patients vous aussi. Soyez patients comme cet agriculteur. Dans ce cas, soyez patients comme Dieu l'est envers nous, avec son plan, les prémices avec Christ, nous voyant comme des prémices qui grandissent et se développent, sachant qu'une plus grande moisson viendra. Soyez aussi patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Cela a été écrit il y a des milliers d'années. Parlons de patience. Parlons de patience. On nous dit d'être patient, tout comme Dieu est patient. Affermissez-vous, car la venue du Seigneur est proche. Frères et sœurs, combien plus proche est-elle aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a des milliers d'années, lorsque cela a été écrit? Frères et sœurs, nous sommes, en tant que prémices, très, très précieux pour Dieu. Très précieux pour Dieu. Nous sommes aussi précieux pour Dieu que l'était Christ pour lui en tant que premier des prémices. Très précieux pour lui. Frères et sœurs, en tant que prémices, nous sommes un avant-goût du futur royaume de Dieu. Nous ne sommes pas l'image complète, mais nous sommes la preuve qu'une moisson plus grande est à venir. Quand les gens nous voient, quand ils nous regardent dans le monde, au travail, dans nos vies, nos familles, lors d'événements, dans ce que nous faisons, quand ils nous regardent, quand ils regardent comment nous parlons, comment nous vivons, comment nous traitons les autres, nous voient-ils comme un avant-goût du royaume de Dieu? Nous regardent-ils et disent-ils, tu sais quoi, je veux être, tu sais, ils disent qu'ils représentent le royaume de Dieu. Je veux faire partie de ce royaume. Je veux vivre dans un monde où ce sont des gens comme eux qui dirigent. Ce sont des gens comme eux qui prennent les décisions. Ce sont des gens comme cela avec qui j'interagis. Est-ce qu'ils pensent cela quand ils nous voient, ou est-ce le contraire? Du genre, « Oh, je ne sais pas trop pour ce royaume de Dieu. » Cette personne est, elle est à côté de la plaque. Je ne veux même pas être près d'elle maintenant, encore moins dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ils devraient nous voir comme l'avenir. Nous sommes les prémices. Ils devraient nous voir et dire, vous savez quoi? Oui, je peux vivre dans un monde comme cela avec des gens comme cela. Nous devons nous assurer que c'est bien ce qu'ils voient lorsqu'ils nous voient en tant que prémices. La dernière raison que nous allons examiner. La dernière raison pour laquelle nous sommes appelés prémices est probablement la plus évidente, mais j'ai décidé de la mettre en dernier. La dernière raison pour laquelle nous sommes appelés prémices, c'est parce que nous passons en premier. Nous passons en premier. Les prémices passent en premier. Vous voyez le lien. Nous passons en premier. C'est incroyable. Les prémices physiques, occupent une place d'honneur. Elles sont les premières à percer le sol, les premières à mûrir, les premières à être récoltées. Elles sont élevées en signe de célébration. Une récolte arrive. Les prémices, elles sont saines, elles sont pleines de vie. Les prémices sont respectées, elles sont appréciées, elles sont considérées comme les chefs de file de la saison. Matthieu 20. Matthieu 20. Matthieu chapitre 1, verset 16. Je vais vous lire un passage sur un immense honneur. Matthieu 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les derniers seront les premiers, mes frères. Nous sommes les derniers, et nous serons les premiers. Nous serons choisis. Choisis signifie ici favori. Mes frères, nous sommes les élus. Nous le sommes. Nous avons été choisis pour inaugurer le royaume et la future moisson de toute l'humanité. C'est un immense honneur, et il s'accompagne d'une immense récompense. Matthieu 19. Restons dans Matthieu, passons au chapitre 19. Lisons ce qui est dit à propos de cette récompense. Matthieu 19, reprenons au verset 23, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Il parlait des gens qui possèdent des richesses, et Christ dit qu'il sera difficile pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Posséder des richesses peut être un obstacle lorsque le but est d'entrer dans le royaume. Quand ses disciples entendirent cela, ils furent extrêmement étonnés. Ils s'étonnèrent et dirent, « Eh bien, qui donc peut être sauvé ?» Mais Jésus, les regardant, leur dit, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc ?» Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous peuvent dire la même chose que Pierre. Père, nous avons tout abandonné. Financièrement, nous avons renoncé à nos emplois, à nos vies et aux carrières que nous avions planifiées pour nous-mêmes. Dans certains cas, et non par choix, nous avons renoncé à nos familles. Nous avons fait tout cela pour te suivre. Eh bien, qu'aurons-nous donc en retour? Heureusement, c'est l'une des rares fois où Jésus a décidé de répondre immédiatement. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, toi qui m'as suivi dans la régénération, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire. » Il nous dit donc quand cela va se produire. Quand cela arrivera, vous vous assiérez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Telle est la récompense des apôtres. Ils s'assiéront sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais Christ a poursuivi, au verset 29. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, ses mères, sa femme, ses enfants ou ses terres, quiconque aura fait cela pour moi, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Oh! Oh là là, d'accord, d'accord. C'est ce que je, d'accord, j'aime cela. J'aime cela. Frères et sœurs, renoncer à des choses dans cette vie, qu'il s'agisse de richesses ou de tous les signes extérieurs de richesse, nous apporte des richesses dans la vie future, une vie bien plus longue. Nous avons 70 ans de ce côté-ci. Nous parlons de vie éternelle. Préférez-vous avoir des richesses pendant une courte période ou avoir des richesses pendant une période bien plus longue? C'est assez simple. C'est assez simple. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Que reçoivent les prémices? Apocalypse 19. Verset 16. Apocalypse 19. Verset 16, l'un de mes versets préférés ici. Cela décrit Christ. Toute la scène ici est incroyable. Vous voyez, au verset 12, il est question de ses yeux qui sont comme une flamme de feu, de nombreuses couronnes, et de son nom écrit, appelé la parole de Dieu. C'est une description graphique tout simplement incroyable. Mais au verset 16, il est dit, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». Bon, le roi et le seigneur, le premier roi et le premier seigneur, en référence au Christ. Mais il est le roi des rois, et il est le seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, nous sommes ses autres rois. Nous sommes ses autres seigneurs. C'est notre avenir en tant que prémisse. Nous passons en premier, nous sommes les premiers à le faire. Les derniers seront les premiers. Frères et sœurs, nous préparons-nous à cela? Y croyons-nous? Je sais que oui, je sais que oui, mais y pensons-nous? Y pensons-nous? Y croyons-nous? Nous préparons-nous à diriger et à servir dans le royaume de Dieu? Surmontons-nous les épreuves de cette vie pour nous positionner en tant que dirigeants, rois et seigneurs dans la vie à venir. Laissons-nous Dieu façonner notre caractère aujourd'hui afin de pouvoir aider à façonner celui des autres demain. Être les premiers n'est pas seulement un privilège, C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Les agriculteurs ne se contentent pas de récolter les prémices pour les admirer sur une étagère. Les agriculteurs comprennent que les prémices sont une promesse, un signe, un engagement envers quelque chose de plus grand qui va venir. Dieu fait de même avec nous, frères, en tant que prémices. Les prémices ont une mission particulière à accomplir, et elles doivent répondre à des exigences particulières. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, alors que nous arrivons à la fin. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous régnera. Frères et sœurs, pour régner avec lui, nous devons souffrir. Nous devons être prêts à souffrir. Dans certains cas, nous devons effectivement souffrir. Nous n'avons pas été appelés pour nous reposer sur nos lauriers. Nous ne sommes pas les prémices simplement pour entrer sans effort dans le royaume. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons nous former, nous devons grandir, nous devons servir. Nous devons être prêts à souffrir. Mais si nous faisons cela, nous régnerons. Nous régnerons. Notre victoire spirituelle, la croissance de notre caractère, notre obéissance quotidienne, tout cela nous prépare à participer à la grande moisson qui viendra plus tard. Les prémices ont été choisies tôt. Nous avons été choisis lors de la moisson du printemps. Mes frères, être des prémices n'est pas seulement une récompense, c'est une mission. Nous sommes les premiers. Nous sommes les prémices. Quel meilleur nom, frères? Quel meilleur nom pourrait-on avoir que celui de prémices? Christ était une prémisse. Nous sommes des prémices. Être des prémices n'est pas quelque chose à prendre à la légère ou à considérer comme « oh, c'est bien ». « Oh, c'est quelque chose dans la Bible, c'est bien ». Non, être appelé « prémisse » est l'un des plus grands noms que quiconque puisse porter. L'honneur du Christ en tant que prémisse est notre honneur. L'avenir du Christ en tant que premier des prémisses est notre avenir. Sommes-nous à la hauteur de notre appellation de prémisse? Embrassons-nous l'honneur, la responsabilité, l'appel qui accompagne le fait de faire partie de la moisson précoce de Dieu? Le faisons-nous? Offrons-nous le meilleur de nous-mêmes? Faisons-nous pleinement confiance à Dieu? Nous consacrons-nous à lui? Sommes-nous cet avant-goût du royaume lorsque les gens nous regardent? Portons-nous la responsabilité d'aller en tête? La Pentecôte, frère, n'est pas seulement le souvenir d'une ancienne pratique. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit, et il y a la naissance de l'Église, mais il y a aussi cette notion de prémisse. Les prémices sont un rappel de qui nous sommes aujourd'hui et, bien sûr, de ce que Dieu est en train de faire de nous à mesure que nous grandissons. Frères et sœurs, répondons à l'appel d'être les prémices. Embrassons ce nom, le plus grand nom que l'on puisse jamais nous donner, les prémices de Dieu.